première. Je vous souhaite une agréable journée à notre écoute.
Bille en tête, avec le Grand Hôtel des Races, 3 étoiles et sa terrasse panoramique, grandhotelrace.ch.
Bille en tête. Philippe Ligron et Duja.
Monsieur, bonjour. Bille en tête sur la première. Qui est Jean-Charles Simon ?
Mon Dieu, Jean-Charles Simon, c'est un acteur non, de cinéma, de théâtre, non ?
Bille en tête ici au musée romain de Vallon, Philippe. Je te salue, Ave.
Qu'est-ce qui t'arrive ? Salut à tous, bonjour les copains. On est content de vous retrouver avant. Je vais parler à voix basse, pourquoi ?
Oui, Philippe, parce que un personnage du passé s'est rematérialisé pour nous ici au musée.
Ben justement, on va parler fort pour qu'il se rematérialise.
Rematérialise, Philippe.
Voilà, regarde, regarde. Voilà, je le vois arriver.
On va passer par cette. C'est un sas qui va nous faire traverser les siècles.
Ah oui. Dans l'autre sens, c'est Ramiro.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Ave Dujanus.
Ave.
Je ne sais pas si on disait comme ça.
Dujatus, je préfère.
Dujatus, tu préfères.
Ligronus.
Ave Ligronus.
C'est incroyable.
Oui. Vous ici ?
Jean-Carlus Simonus.
Ah oui, moi je viens en voisin, moi.
Oui, de Don Didier, je crois.
De Don Didier.
Oui.
Qui est une région très riche aussi en. Vestiges.
Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes un patricien romain ? Vous êtes l'incarnation même de ce patricien ?
Maintenant, je suis à la retraite, ils me mettent là comme décoration à l'entrée.
D'accord, une antiquité.
Je suis une antiquité, alors j'ai de temps en temps droit à une toge. Mais comme il fait froid, j'ai remis une petite laine.
D'accord. On va voir la mosaïque ?
Ah, on va voir la mosaïque. Hein ? On va voir la mosaïque.
Voilà, nous passons le sas des années.
Voilà, alors attention parce que... Enfermé, hein.
Ah, il fait tout de suite plus frais, là. Hein.
Bah oui,
ouais, d'où l'idée de la petite laine avec la toge.
Laine, là, j'ai une toge en fourrure.
Magnifique, cette mosaïque.
Impressionnant. Bravo, ça.
Ah ouais. Voilà. Donc là, cette mosaïque, elle a été découverte dans cet état-là ou elle a été...
D'accord.
Et Philippe, description des choses.
J'en sais fiche rien, moi. Ah bah...
Vous pourriez demander peut-être à l'archéologue.
Je suis figurant, je ne suis pas archéologue.
On revient tout de suite à Jean-Charles Simon, mais peut-être un mot de Clara Augustoni concernant cette mosaïque auquel vous tenez comme à la prunelle de vos yeux. On a vu que vous la défendiez dans une émission d'hier, je crois. C'est pour vous, c'est quand même une bénédiction.
Mais on se doit de les protéger, ces mosaïques, parce qu'elles sont extraordinaires. Et puis, ben, comme vous l'avez remarqué, on est dans un milieu très humide, frais aussi. Donc, elles sont conservées à environ 15-17 degrés de température et à 95-97% d'humidité. Donc, ce sont deux conditions nécessaires pour la conservation. Alors voilà, on lui tient comme à la prunelle de ses yeux, parce que ce sont des pièces extraordinaires. Oui. Découvertes en l'état, donc on a juste enlevé à environ 2 mètres de terre, de déblais, de couches, de sédiments qui se sont déposés à travers 17 siècles. Hein, donc,
On vivait comment là-dessus ? Ça correspondait à quoi ? On était pieds nus ? On avait des espèces de chaussures ?
Matin, glace.
Non, mais la température de l'époque
n'était
pas comme ça. Bien évidemment, pas, non. Enfin, peut-être en hiver, mais voilà. Quand on passe à table, on enlève les chaussures. Donc, puisque c'était une salle de banquet, vraisemblablement, les gens devaient enlever leurs chaussures avant de se coucher sur les lits. Mais voilà, quoi, c'était de toute façon une pièce qui permettait l'accès à plusieurs personnes, puisqu'elle mesure presque 100 mètres carrés de surface. On pouvait accueillir vraiment beaucoup, beaucoup d'invités dans une salle de banquet comme celle-ci.
Mais elle était dans cet état ou elle a dû être reconstituée, j'entends ? Parce que je vois qu'il y a des trous à des endroits. Est-ce que c'est fait exprès ? Est-ce que vous avez voulu donner une connotation comme ça un peu usagée ? Comment ça s'est trouvé, tout ça ?
C'était les taches de vin de l'époque, c'est un peu acide.
Non, c'est brûlé de cigarettes.
Non, alors en fait elle est en l'état, on l'a découverte comme ça, les taches blanchâtres que vous voyez c'est du sable qui comble des trous de poteaux, donc il y a une construction en bois qui s'est implantée ici après l'abandon, en fait tout était déjà recouvert et puis ben, voilà, on a transpercé la mosaïque pour construire ce bâtiment en bois. Et puis, il y a des traces aussi d'usure, il y a des traces aussi, personnellement j'appelle ça un peu du rafistolage, on a deux endroits où on voit très bien qu'on a mis des tesselles de mosaïque un peu n'importe comment. En fait, on a dû combler des lacunes pour éviter que les dégâts avancent et puis que, voilà, on essaie de...
Les gens qui ont essayé de combler les lacunes l'ont fait de manière extrêmement expéditive, on dirait.
Oui, c'était des maladroits, je pense, oui.
Mais puisqu'on parle de ça, Mme Mélan nous a dit qu'elle avait des stocks de mosaïques rangés dans des cartons. Comment on fait? C'est un travail de fourmi, c'est un puzzle hallucinant à remonter ça.
En fait, une mosaïque, c'est un tapis de pierres. Donc, c'est ce qui veut dire qu'on prend des pierres de couleurs différentes. La plupart de tesselles, hein, de cubes de pierres qui sont ici, ce sont des pierres naturelles de la région et des environs. Et puis, on les débite en cubes, en principe, de différentes grandeurs pour dessiner ici, ce sont des scènes de chasse en amphithéâtre, avec toute une trame de fond richissime, de croisements de lignes, de losanges, de triangles, avec des fleurons, avec des tas de détails. Donc. Alors, pour refaire une mosaïque, c'est des spécialistes, et ça se voit bien ici, hein, comme on disait, il y a deux, trois endroits où c'est vraiment fait n'importe comment. Parce que...
Ça vous énerve, ça, hein?
Non, ça ne m'énerve pas. Je trouve que ça montre bien que c'est là aussi, c'est la vie. Hein. Donc, les gens de l'époque ont essayé et puis, essayaient pas plus, probablement.
Parce que ces rafistolages, là, ils sont de l'époque?
Ils sont de l'époque, oui, tout à fait.
Ah oui. Ils ont quand même bien picolé, hein, pour rafistoler comme ça. Bonjour mesdames, pardonnez-moi de vous déranger. Pourriez-vous me dire ce qu'est une mosaïque, s'il vous plaît?
Mais c'est un ensemble de petits carrés, de petits trucs en faïence.
Ouais.
Ouais, bon.
Et comment est-ce qu'on fait ces petits carrés?
Ah, il faut les couper, je suppose.
Ouais. Ouais. Il faut les couper avec quoi?
Ah, ça c'est dur, dur.
Et quel genre de petits carrés?
De toutes les couleurs.
Et on les colle comment?
On met la colle.
Et est-ce qu'on fait un plan avant?
Ah ben oui, sinon on va dans le mur.
Ouais, parce qu'il y a des mosaïques romaines qui datent de 2000 ans.
Oui, oui, bien sûr.
Elles ont tenu le coup.
Oui.
Pas sûr que nos trucs à nous durent 2000 ans.
Ah ben non, mais on fait plus de mosaïques non plus.
Ah, un iPhone, ça va pas durer 2000 ans.
Ah non, heureusement.
Mais qui a créé ça à la base? Il y avait des gens qui étaient spécialistes, des mosaïstes?
On sait qu'il y a c'est des ouvriers spécialisés. En fait, on les appelle souvent des artistes. C'est des artistes artisans dans un sens qu'on voit la qualité de leur travail. C'est remarquable. Nous-mêmes, on fait des ateliers. Hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir avec des classes ou des enfants ou même vous-même. Donc, on vous apprend à tailler la pierre. C'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est vraiment, à mes yeux en tout cas, de l'assembler de sorte à dessiner des lignes droites, à dessiner des visages. Comme vous avez ici. Avec
comment ils faisaient? Ils avaient une espèce de calque qui remplissait après coup?
Ils avaient ce qu'on pourrait appeler des cartons, c'est-à-dire c'est des modèles, hein, donc, qui existaient. Les gens, par exemple, le propriétaire de Vallon, pouvaient très bien choisir en disant, j'aimerais avoir des scènes de chasse, et puis plutôt que d'avoir, des scènes mythologiques ou autre chose. Donc une fois qu'on a choisi le sujet, les mosaïstes s'apprêtent à le réaliser. Alors là, c'est difficile à évaluer le temps nécessaire pour réaliser une mosaïque qui couvre une surface de 97 mètres carrés. On peut estimer ça d'après des calculs qu'on vient de... Enfin, je viens de voir des informations autour de 6 mois à une équipe probablement de 2 ou 3 personnes. Ce qu'on sait en revanche, parce qu'on a pu le faire, donc on a pu estimer la quantité de cubes de pierre, de tesselles. Nous avons compté, enfin le personnel de la réception a compté il y a quelques années les tesselles qui composent un médaillon. C'est le médaillon de chasseur au javelot, jusqu'à y compris la bordure de triangle noir. Ce sont pas moins de 10 080 cubes de pierre qui le composent. Donc ça nous permet d'estimer la surface à plus d'un million de tesselles.
C'est presque plus impressionnant que les pixels, les tesselles.
C'est tout aussi impressionnant,
mais
oui.
Il ne dessinait pas d'abord sur un fond.
Prenez une photo d'abord.
Non, mais il ne dessinait pas, il remettait les...
Si, il y a des tracés donc qui aident, bien sûr. Vous voyez, là, il y a des hexagones, et puis vous avez des lignes qu'on peut suivre sur toute la surface en diagonale. Elles se croisent vraiment d'une façon parfaite. Donc, il y a effectivement un tracé préparatoire qui, parfois, est encore visible dans le mortier de pose.
We'll be right back. de serpent. On s'affaisse, on a la queue qui frise, on a la peau épaisse, on a la peau grise. Et quand on veut sortir avec une demoiselle, on l'invite à dîner, quand elle vous voit, que dit-elle? Il ne vous manque qu'une bosse, pas des rétro-rhinocéros.
La tête la première.
L'inoxydable Jean-Charles Simon, c'est dans Bille en tête, évidemment. Alors Jean-Charles, le patricien, c'est quoi? Ça sera un rôle? Ça sera spectacle? Ça sera plutôt un accompagnement de la muséographie?
Simplement pendant le musée des journées du patrimoine, je vais faire un peu ce que vous avez fait pendant toute la semaine, c'est-à-dire je vais jouer le rôle du nouveau riche qui a racheté la villa et qui décide de faire un grand banquet. Mais un banquet comme on pourrait faire à Rome, quoi, de nouveau riche, c'est-à-dire il veut tout. Alors il a engagé Madame Agostoni comme chef du protocole parce qu'il sait pas grand-chose. Il vient d'Avenches, mais c'est sa première grande villa et il aimerait faire quelque chose qui pète, quoi, qui impressionne. Donc je vais demander d'abord comment on invite les gens, qui on invite. Est-ce qu'on invite les citoyens d'Avenches et les citoyennes, les femmes? On n'en prend pas. Ou bien est-ce qu'on prend peut-être plutôt des joueuses de flûte, quand même, pour le fun?
Les fameuses nièces.
Les fameuses nièces, voilà. Ou bien ensuite, on va se coucher. Bon, il faut se coucher. Il faut des grands lits, il faut des petits lits. On en a des petits lits. On va montrer comment on fait. Et puis, on va montrer un peu les ustensiles. Est-ce qu'il n'y a pas de fourchette? Bon, mais il y a des couteaux. Bon, pas de couteaux. Mais il y a des petites cuillères, quand même. Des petites cuillères.
C'est bizarre, ça.
Oui, des petites cuillères, parce qu'on prend beaucoup en sauce. Alors, Madame Agostoni va me montrer comment on mange. Et puis, qu'est-ce qu'on mange? Parce que moi, j'aimerais pas qu'on mange uniquement du jambon à la borne, comme on devait manger déjà là. Non, je veux que ça soit comme à Rome. Alors, comme à Rome, c'est loin. Donc, est-ce que je peux avoir des huîtres? Oui, voir des huîtres, voir des moules. Mais moules, c'est plus dur parce que, mais on a vu des, quand même dans la région des coquilles vides. Alors oui, mais les moules, c'est un peu dur parce que ça se conserve moins. Les murènes. Ben, j'ai vu que Tibère mangeait des murènes, j'aimerais bien des murènes vivantes. Mais il faut les faire venir. Et les pins.
Mais il y avait quand même des routes, hein, la route du sel, oui. Il y avait quand même des routes qui permettaient de. Du reste, la route du sel était souvent la route du poisson parce qu'on conservait des poissons dans le sel et on faisait.
Oui, mais vivant, moi, je verrais des machins vivants ici, c'est plus dur. Et puis,
je sais pas s'ils ont un gros budget ici, hein.
Moi, j'ai un budget illimité. Je viens d'acheter le village. Et, alors, je veux que ça pète. Je Magnifique. Veux, comme à Rome, tout ce qu'on mange à Rome. Et puis, je demanderai aussi à Agostoni si le pâté de langue de rossignol, ça existe. Si les perles dissoutes dans le vinaigre. Lucullus, qui dit une chez Lucullus.
Ce grand délire là que tu vas nous faire, ça sera quand exactement, à l'occasion de quels événements particuliers?
Les journées du patrimoine qui se dérouleront, Mme Agostoni, quand? Bientôt.
En septembre
prochain.
Et on se prépare comment là? On se dit, oula, faut que j'allège un peu la masse parce que ça va être du banquet non-stop.
Non, c'est uniquement la préparation. Ouais. La préparation, nous n'avons pas les budgets pour faire vraiment le banquet. Ouais,
mais tu n'essayes pas quand même certaines recettes à la maison chez toi?
J'aimerais bien faire ce que faisait Saint-Rance. Il a fait sa recette du canard apicius. Hein. Je crois qu'il l'a laissé. Et j'avais un copain qui l'avait fait une fois.
C'est quoi ça?
C'est un canard avec des tas de mélanges d'épices, etc. Et c'est un truc extrêmement compliqué. Ça prend 4 jours à préparer et 12 minutes à manger. Ce qui n'est pas rentable. Mais il paraît que c'est très bon.
Alors, il y avait des recettes assez particulières, puisqu'on a retrouvé des traces. Alors ça, je vous l'ai dit, hein, cette semaine, je suis en train de préparer un festin romain à Avanche pour le 23 et 24 août.
Ah, le calvinisme vaudois, c'est insupportable.
Et donc, il y avait des recettes que je ne pourrais pas faire, comme les vulves de truie.
Oui, c'est ça, parce que ça, c'est la grande mode, ça. Mm-hmm. Hein, dans tous les banquets, il y avait les tétines de...
Alors, et puis il va y avoir des tétines de truie. Il n'y aura pas de vulves, parce que je n'ai pas voulu non plus trop choquer les gens, mais...
Mais ces vulves de truie, ça se préparait comment, Philippe? Parce que t'es quand même un grand connaisseur.
Alors, les vulves de truie, eh ben, d'après les recettes que j'ai vues, mais il faut encore que je regarde, même si je ne ferai jamais cette
recette. À l'intérieur.
Il faut bien les rincer. Une fois qu'on les a bien rincés, il faut les blanchir. Et les blanchir, ça les plonger dans l'eau salée en ébullition. Après, on les refroidit et on les poche dans un bouillon. Et une fois qu'elles sont pochées, c'est-à-dire dans un bouillon, c'est-à-dire 85 degrés, frémissement, sans ébullition. Après, une fois qu'elles sont pochées, on les laisse tiédir dans le fond de pochage. Et après, ils les sortaient et rajoutaient dedans toute une garniture à l'intérieur.
Ouais. Voilà une bonne idée pour vos repas de fin d'année. Oui,
oui. Et puis, ça a le goût de tétine.
Ouais. Ah, je sais pas, j'ai jamais goûté.
Dis-moi, il y aura aussi une conférence, Jean-Charles?
Oui, parce que c'est assez drôle. J'avais fait une conférence une fois, et puis je vais la reprendre. Ça s'appelle Cuisine et dépendance géographique. Parce qu'on s'aperçoit qu'ici, ils ont mangé des huîtres, ils ont mangé des choses comme ça pendant les Romains. Et pendant un grand bout de temps, jusqu'aux environs de la moitié du XXe siècle, pour trouver des huîtres dans la région, tu cherchais un peu. Parce que, alors moi, je suis né à Genève d'une grand-mère lyonnaise, et je me suis aperçu qu'avec cet atavisme-là, je mangeais des trucs que mes copains d'école, même à Genève à l'époque, n'avaient jamais mangé. Hein. Donc finalement, la cuisine, ça dépend évidemment de la classe sociale, mais ça dépend aussi de tes origines géographiques, la culture. Alors c'est un peu ça, c'est une espèce de chose comme ça, et puis c'est un petit truc autour de la bouffe, en partant de la nourriture des Romains, puis voilà, on arrivait à cette époque-là. Et le futur, qui s'annonce pas extrêmement gai, le futur.
Très protéiné en matière d'insectes, je crois.
Les steaks avec des cellules souches et des jus de betterave, c'est pas terrible non plus.
Monsieur Poste, qui à mon avis est complètement timbré d'ailleurs, sans faire de jeu de mots.
Ouh, elle est bonne celle-là.
Sans faire de jeu de mots et qui a réussi à mettre au point un steak haché, il veut résoudre la faim dans le monde et actuellement il coûte quand même 250 000 francs les 100 grammes, donc on n'y est pas encore. Hein.
Non, ça, on n'y est pas encore, Dieu merci.
Ça va baisser, d'ici 2353.
Mm-hmm. Mais d'ici là, il faudra que le steak soit bien haché parce que
Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger deux secondes, c'est très rapide. Qui est Jean-Charles Simon ?
Ah, oui, c'est quelqu'un de bien connu à la télévision, à la radio. Ouais.
Qu'est-ce qu'il fait ?
Il fait des émissions.
Ouais. Il n'en fait plus maintenant ?
Non, il ne fait plus. Non. Il a été pharmacien, je crois, dans un temps immémorial, voilà. Mais oui, il a fait plein d'émissions diverses. Ouais.
Votre préférée, c'était laquelle ?
C'était sympathique, mais à la fin, j'aimais pas. Qu'est-ce que c'était à la radio ? C'était un petit peu vieille, mais bon, il est sympathique, voilà.
Juste un mot sur ses racines lyonnaises aussi. Alors, oui. Toi, tu débarques en Suisse.
Je ne débarque pas, je suis né à Genève.
Voilà, mais je veux dire, tu débarques en Suisse profonde.
Ah je oui, termine je la... remonte hein un peu.
Voilà, tu remontes un peu vers l'Est, vers cette frontière linguistique aussi, la Broye, par là.
Voilà. Hein.
Et alors, quand on est comme ça, de descendance.
Quand on vient de la civilisation, c'est
ouais,
ce que tu veux
ouais,
dire.
Lyonnaise, c'est pas dur de manger en Suisse.
Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai découvertes sur le tard. La cuisine, la charcuterie fumée. C'est un truc que je connaissais.
Toi, la sèche.
Non, c'était la charcuterie qui n'était pas fumée, la charcuterie lyonnaise n'était pas fumée. Et puis, par contre, le jambon, ici, pour trouver du jambon blanc, jambon à l'os blanc, comme on faisait avec des gratins de pommes de terre de ma grand-mère, tu n'en trouves pas, tu ne trouves pas du jambon.
Très bon dans le Jura, blanc. Dans le Jura, il y en a du très bon. Hein.
Non, il est fumé.
Non.
Ah ouais ?
Ah non, on trouve ça, du jambon à l'os.
On en trouve maintenant, mais c'est vrai que c'est pas dans la culture. Ici, on fume beaucoup les aliments.
Pourquoi est-ce qu'on fume dans des régions ? Pourquoi est-ce qu'on sèche dans d'autres ?
Parce qu'après, il y a une histoire du climat, peut-être. Il y a une histoire culturelle. Les maisons sont construites autour d'un fumoir. Enfin, j'entends, c'est plutôt culturel. Ah, Madame Mélan se rapproche.
C'est conservé aussi.
C'est vrai que les viandes fumées, elles ont été très, très prisées dans l'Antiquité et puis jusqu'à aujourd'hui dans nos régions. C'est pour des questions de conservation, surtout dans des climats.
Mais pourtant, séché aussi, c'est une question de conservation. Salé aussi.
Et tu regardes, salé, séché, tout ça, ça dépend de tout. On sale plus, c'est au niveau géographique aussi. En vallée, ils font beaucoup sécher la charcuterie parce qu'ils ont un climat qui se prête plus à ça. Le sel, c'est aussi quelque chose qui coûtait cher. Donc voilà, on fumait plus ici. C'était comme ça que ça se passait. On avait l'âtre et au-dessus, on fumait, on pendait ça et puis on laissait comme ça la charcuterie. C'était le frigo de l'époque. C'est culturel et géographique.
Estate non si riesce a far più niente che morire sotto il sole tra le gabole e la gente e non so più dove andare ma non voglio questa gente dove sei dove sei dove sei dove sei mi rinfranco faccio un bagno dentro il sole gioco a scopa nelle scuole vuote come un capannone mi distendo sopra un pianoforte sciolto e mi chiedo dove sei dove sei dove sei dove sei ah che bella questa estate questa gente tutta immagine e poi niente e nessuno vuole dirmi dove sei faccio stragi ma se passo da perdente prima o poi la stessa gente mi telefona e mi dice dove sei sono stanco delle mie stesse parole qui si fanno solo prove non si sa chi diventare per fortuna che ti ho visto per fortuna almeno tu sei come sei come sei come sei come sei questa estate questa gente non mi portano più a niente ma che importa se mi dici dove sei pensa un po' che mi travesto la pezzente sparo lacrime abbronzanti e le vendo per scoprire dove sei a far più niente qui si muore con la gente che non sa cosa vuol dire insieme a te ti ho trovata sopra un panfilo lucente, l'ammiraglio inconcludente, ma che importa se tu sei vicino a me.
En tête avec J.C. Simonus. On en revient à ces journées du patrimoine qui seront animées par Jean-Charles Simon ici au musée romain de Vallon.
Animées, c'est beaucoup dire. Qui seront
enluminurées.
Qui seront illuminées.
Illuminées, d'accord. Est-ce qu'il y a déjà des idées là de plat dans la folie de l'homme qui t'ont marqué, où tu te dis ça, je ne sais pas si je goûterais ou ça, mais qu'est-ce que l'homme est fou quelque part?
Il y a un truc que je n'ai pas osé manger. J'ai des copains marocains à Marrakech. La dernière fois, on était allé manger des têtes de mouton. Et comme j'étais le convive de choix, ils m'ont donné les yeux de la tête de mouton, qui est voilà. Et je dois dire que je n'ai pas pu.
Non.
Donc je me suis fâché définitivement avec mes amis, et je ne les ai plus jamais revus.
Mais la tête de mouton, ça se mange, Philippe?
Ben oui, tout se mange. Bon. Par contre, les yeux...
L'œil, c'est croque. Ouais. L'œil, c'est croque, c'est un peu comme une dragée, mais c'est... Ouais. Il arrive un moment, il y a quand même des interdits comme ça, qui se surmontent.
Ils ne sont pas fâchés, quand même.
Non, ils ne sont pas fâchés.
C'était plus amusé qu'autre chose, parce que là, c'est limite...
Ils étaient dessus, parce qu'eux, ils étaient contents de pouvoir manger.
C'est limite bizutage, quand même, pour quelqu'un de faire manger des yeux de mouton à un convive.
Ils ont mangé, après.
En même temps, il n'y en a que deux hein, par mouton. Donc,
oui.
Juste une question par rapport en fait, à Rome, ces plats romains. Est-ce qu'il y en a certains qui te rebutent? C'est un peu ça ma question que j'ai un peu développée par tous les bords.
La tétine de porc et la hule de porc, ce n'est pas quelque chose qui me fascine beaucoup. Et puis, il y a des oiseaux comme ça, quand ils mangeaient du paon, hein, ils mangeaient du cygne. Ce sont des oiseaux...
Entre deux flûtes.
Oui, de pan. Ouais. Eh ben, c'est des trucs comme ça qu'on n'a pas.
Hein, on n'a pas l'habitude, mais si on regarde au 19e siècle, on en consommait couramment. Quoi.
Ouais.
Justement, dans une orgie ou dans un festin romain, j'ai l'impression que tout est possible en matière de créativité.
Oui, il y a quand même des principes. Moi je suis en train de travailler là-dessus. Il y a du boulot parce que ce n'est pas évident à saisir le sens même de ce qu'ils voulaient retranscrire à travers ces préparations-là. Parce que c'est vrai, comme dit Jean-Charles, il y a quand même des recettes un peu bizarres. Hein. Quand tu vois des langues de rossignol, des trucs comme ça, tu dis, attends, ils étaient perchés les gars pour aller chercher des trucs.
Ça, c'était vraiment un truc de nouveau riche. Hein. Moi qui serais donc le chef, le propriétaire nouveau riche, en effet, la langue de rossignol, c'est bien, on prend des rossignols, puisque la langue de rossignol, c'est le chant le plus beau, on leur arrache la langue, il en faut 600 pour faire une petite terrine comme ça, ça s'en jette, ça c'est bon goût, je trouve.
Bonjour monsieur, pardonnez-moi de vous déranger. Quelle est la différence entre un vieux riche et un nouveau riche? C'est-à-dire quelqu'un qui est riche depuis très longtemps et quelqu'un qui vient de gagner à la loterie, par exemple, qui vient de s'enrichir.
Je pense que le nouveau riche est beaucoup plus dépensier qu'un vieux riche.
Ça peut pas être facile de jouer le nouveau riche quand on est un vieux riche.
Non, mais je suis sûr.
Comment on se met dans la peau de cette idée-là? Il y a forcément l'idée de l'exubérance, l'idée du trop-plein, quoi.
Non, mais il y a quand même un certain nombre de choses que je n'ai jamais goûtées, que j'aimerais bien goûter. J'ai jamais bu de Romané Conti, par exemple, jamais de ma vie. J'aimerais bien pouvoir boire une bouteille de Romané Conti une fois, par exemple. Tout bête.
Et en matière de nourriture, un fantasme?
Des choses qui disparaissent petit à petit, c'est le caviar beluga à la louche voilà, sur des blinis. Et maintenant, ça commence à devenir relativement cher et rare. Hein.
Ouais. Une dernière chose, alors peut-être juste le petit plat, le petit encas de l'humble animateur radio à la retraite, quand il se retrouve comme ça tout seul, qui a envie de se faire un petit plaisir, après un match de foot par exemple, même si je sais que tu regardes moins le foot qu'à une époque, il y a des petites choses comme ça qui te font plaisir.
Un quignon de pain que je laisse ramollir dans du bouillon cube.
Merci beaucoup Jean-Charles.
Oui.
On se retrouve demain, Philippe.
Oui, on se retrouve demain. On parle de Rome, on parle du musée de Vallon, on parlera d'Avenche avec nos deux spécialistes en archéologie et puis on parlera de gastronomie aussi.
Il y aura forcément une recette.
Ah, toute manière.
Ouais, parce que tu as pris ton petit bouquin là et tu as envie quand même d'exploiter l'investissement.
Ouais, hein. On a peu parlé de recettes encore, mais ça c'est demain dans Bille en tête, 9h30. Ciao, à demain.
À demain.
Bille en tête avec le Grand Hôtel des Races, 3 étoiles et sa terrasse panoramique, grandhotelrace.ch.
La première, il est 10h.